VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel, direction la Guinée, où les élections législatives couplées au référendum initialement prévu le 1er mars et reportées de 2 semaines par le président Alpha Condé n'auront pas lieu ce dimanche 15 mars. Les experts de la CDAO travaillent toujours sur le fichier électoral qui cristallise les tensions dans ce pays. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint Aboubacar Condé. Il est le rédacteur en chef de Sabari FM, notre station partenaire en Guinée.
Dans le fond de ce report annoncé par le chef de l'État, il y avait la volonté de calmer les jeux. La tension était vive dans le pays. Mais dans la forme, il y a eu vice de procédure parce qu'il ne revient pas au président de proposer une date. Il revient au président de valider ou d'invalider une date qui lui a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que dit la loi. Le président a annoncé que les élections sont reportées pour 2 semaines, mais il revenait à la CENI de faire la proposition pour entériner ce choix du président de la République. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a les experts de la CEDEAO qui sont au pays, qui doivent travailler sur le fichier électoral du 3 au 13 mars. Donc, mathématiquement, les filles doivent finir le travail après-demain. C'est après cela maintenant, si ce résultat-là est accepté de tous maintenant, que la commission électorale va déposer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette requête soit validée et qu'elle puisse proposer une date au président de la République.
Les experts de la CEDEAO doivent examiner le fichier électoral jusqu'au 13 mars. Mais entre-temps, qui a décidé que les élections n'auront plus lieu le 15 mars comme le président Alpha Condé l'avait annoncé?
Le président a des intentions politiques. Il veut qu'il y ait ces élections parce qu'il y a la pression de part et d'autre. La communauté internationale, la communauté régionale et sous-régionale mettent la pression, mais également à l'interne, parce qu'il y a des partis politiques qui sont candidats pour ces élections législatives qui avaient d'ailleurs menacé de mettre ça dans la rue ce mardi si aucune date n'est fixée pour la tenue des élections législatives. Et même, il y a des partisans du pouvoir en place qui exigent à ce qu'une date soit fixée pour aller à ces élections. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains membres de ce pouvoir en place qui reprochent à ce fichier électoral. Donc, ça veut dire que il n'y a pas une base légale, une base de compromis pour aller à ces élections-là. C'est ce qui fait que la CENI, qui est l'organe habilité à faire des propositions de dates au président de la République pour que ces dates-là soient validées, ne s'est pas mis dans la logique de proposer une date parce qu'elle dit qu'il faut qu'elle attende d'abord le résultat, la finalité du travail des experts de la CEDEAO et que chacun comprenne exactement quel est le problème du fichier électoral. Parce que vous le savez, il y a cette question de 2 400 000 électeurs sur le fichier électoral dont on ne connaît pas encore les provenances.
Le président Alpha Condé avait décidé de reporter donc les élections, eu égard bien sûr à la tension qui était très vive dans le pays, mais aussi les mésententes avec la CEDEAO sur le fichier électoral justement et l'Organisation internationale de la francophonie. Quel est l'état d'esprit des Guinéens en ce moment-là? Est-ce que la tension a baissé?
Depuis l'annonce de ce report, la tension a baissé d'un cran. Hier, le FNC avait fait appel à une journée de résistance. Les endroits qui sont censés être les plus réputés n'ont pas reçu assez de violence comme on a connu par le passé. Aujourd'hui, il y a de la calme par endroit, même si les opposants restent pessimistes quant à la volonté du chef de l'État de organiser des élections transparentes. Quand vous promenez à Conakry, vous n'entendrez pratiquement personne parler de ces élections-là. Les citoyens ont pratiquement oublié et pour eux-mêmes, il n'y a plus d'élections.
Aboubacar Condé, rédacteur en chef de Sabari FM, joint à Conakry. Au Mali, 10 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés dans le village de Kourkanda, proche de Burkina Faso. Selon des responsables locaux, le village a été également incendié par les assaillants en Bagassikoura.
Vers le crépuscule, ils sont venus en petits groupes sur des motos, tous armés. Ils ont commencé à faire des tours en moto autour de petits villages. Ce n'est que vers 20h le 9 mars qu'ils ont commencé à attaquer les villages, a dit à l'AFP un conseiller du chef du village de Kourkanda, Youssouf Togo. Ils se sont ensuite regroupés et ont attaqué et incendié notre village, a-t-il ajouté. Il y a eu 10 morts, le village est incendié et personne ne sait d'où viennent les assaillants, a dit un responsable de l'administration de Bankas, la ville la plus proche, Yana Dolo, dont des agents ont incendié les lieux. Kourkanda est situé dans la même région que le village martyr d'Ogosagou, où 31 civils peuls ont été tués le 14 février, un an après le massacre de 160 membres de cette même communauté peuls. En mars 2019, le centre du Mali est le théâtre d'un grand nombre de violences depuis 2015. Les attaques, souvent suivies de représailles, se sont multipliées entre les peuls, majoritairement élevés, et les ethnies Bambara et Dogon, qui pratiquent essentiellement l'agriculture.
L'ex-ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, est pressenti pour remplacer l'émissaire de l'ONU en Libye, Hassam Salamé, démissionnaire. Plusieurs fois ambassadeur, il a été médiateur dans plusieurs conflits africains, notamment au Libéria, sous les auspices de l'ONU et de l'Union africaine. Il a été ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2017. Dans un communiqué mercredi soir, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la désignation de l'américaine Stephanie Turco Williams pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un successeur à Hassan Salamé. Et l'Algérie a enregistré son premier décès dû au nouveau coronavirus, a annoncé aujourd'hui le ministère algérien de la Santé dans un communiqué. Le communiqué cité par l'agence officielle APS ne donne aucune précision sur ce décès. En outre, 5 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés, ce qui porte à 24 le nombre de cas confirmés sur le territoire algérien selon le ministère. Un 25e cas, le premier enregistré en Algérie, concerne un ressortissant italien diagnostiqué positif en février qui a depuis regagné son pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Coronavirus toujours, le président philippin Rodrigo Duterte va subir à titre préventif un test de dépistage du nouveau coronavirus, a indiqué aujourd'hui son entourage. Les Philippines ont connu du moins cette semaine une hausse du nombre de cas d'infection, notamment chez des personnes qui avaient pris part à des événements auxquels assistaient des sénateurs et des responsables gouvernementaux. Les bâtiments du Sénat et de la Banque centrale sont en cours de désinfection et plusieurs responsables ont annoncé qu'ils allaient se placer à l'isolement à titre préventif. L'acteur américain Tom Hanks a déclaré mercredi sur Twitter que son épouse, l'actrice Rita Wilson, et lui-même ont été testés positifs au coronavirus en Australie, où il travaille actuellement sur un long métrage. Tom Hanks a indiqué que le couple a passé un test de dépistage au coronavirus après s'être senti fatigué et fiévreux. Il a fait cette annonce en précisant vouloir faire montre de transparence, ajoutant que son épouse et lui resteraient placés en isolement et en observation aussi longtemps que nécessaire. L'Union européenne va évaluer aujourd'hui la situation pour tenter d'éviter les retombées économiques de la décision de Donald Trump concernant les voyageurs ayant séjourné en Europe, a assuré aujourd'hui le président du Conseil européen, Charles Michel. La perturbation économique doit être évitée, a déclaré M. Michel, quelques heures après l'annonce surprise du président américain, suspendant pour 30 jours l'entrée aux États-Unis des voyageurs ayant séjourné en Europe pour endiguer l'épidémie de coronavirus. La Cour suprême des États-Unis a octroyé hier mercredi une victoire à l'administration Trump en l'autorisant à poursuivre une politique qui a permis de renvoyer au Mexique plus de 60 000 demandeurs d'asile. Eric Manirakiza.
Annoncée en décembre 2018 et mise en œuvre un mois plus tard, cette politique baptisée Rester au Mexique vise tous les demandeurs d'asile arrivés aux États-Unis via le Mexique, mais pas les Mexicains eux-mêmes. La décision de la Cour suprême permet de le maintenir hors des États-Unis le temps de l'examen de leur dossier. Plus de 60 000 migrants, en grande majorité fuyant la pauvreté et la violence en Amérique centrale, ont été renvoyés au Mexique dans ce cadre en 13 mois, selon la Maison-Blanche. Une cour d'appel fédérale a récemment jugé le dispositif illégal et devait en conséquence être suspendu sur des pans de la frontière à partir de jeudi. Le président Trump a alors saisi la Cour suprême en urgence pour lui demander de bloquer l'ordre du tribunal. La Cour suprême lui a donné raison. L'ordre du tribunal est suspendu en attendant l'examen des arguments sur le fond, a-t-elle décidé sans donner plus d'explications. Le juge progressiste Sonia Sotomayor a précisé ne pas être d'accord. Le temple du droit américain, remanié par Donald Trump, a accordé plusieurs victoires significatives à l'administration républicaine en matière d'immigration ces derniers mois. Il a notamment autorisé à financer la construction d'un mur à la frontière sud avec des fonds militaires ou à pénaliser les migrants bénéficiant d'aides sociales.
Les dirigeants irakiens et l'ONU ont condamné aujourd'hui les tirs de roquettes qui ont fait 3 morts, dont 2 soldats américains et britanniques, dénonçant une escalade dangereuse pour un pays qui a déjà récemment fait les frais des tensions entre Washington et Téhéran. Mercredi soir, 18 roquettes ont été tirées sur la base de Taji, au nord de Bagdad, dans l'attaque la plus meurtrière recensée depuis plusieurs années contre une base abritant des soldats américains. Peu après, des raids aériens ont visé des positions de supplétifs de l'Iran à la frontière entre Irak et Syrie, tuant 26 paramilitaires irakiens, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.